Tombe bien. Koach HaMedame. Alors, c'est quoi le Koach HaMedame? C'est la force de l'imaginaire. D'accord? C'est un grand concept chez le Rav Kook, le Koach HaMedame. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est l'une des forces nécessaires pour la névoie. Quelqu'un qui n'a pas un bon imaginaire ne peut pas prétendre à la prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie, c'est au-delà de la chokhma. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne vit que en mode chokhma, que analytique, que je ne crois que ce que je vois, ben je ne peux pas m'élever à faire de la place à un dévoilement qui est supérieur. Donc, le Koach HaMedame est très important. Ceci étant, le Rav Kook nous avait dit il y a très très longtemps, dans la partie Shel Eretz Israël, il est propre, il est pur. Ou mesugal le ofat a emet a Elohit. Et il est propre pour faire comme je disais. Le avakad ruach kodesh vezohar. Donc il est propice pour dévoiler la névoie, comme on vient de dire. Mais adimion asher be'eretz ha'amim achur hu. Mais l'imaginaire des Angelout, il est tout sale, achour, comme une eau qui est complètement trouble. Mais au rav ben machashakim, betzillele tum'a veziyum, il est mêlé avec plein de choses qui sont bah, tum'a, vodazara.
C'est pas leur vocation.
Bah, c'est-à-dire que là-bas, il m'a la sorte, il se passe d'autres choses.
Baudelaire disait c'est la folle du logis.
L'imaginaire.
Oui,
ouais. Mais alors. Voilà la différence entre deux personnages qui étaient des géants de la Torah tous les deux. L'un s'appelait Rabbi Yosef Karo et l'autre s'appelait Rabbi Eliyahu Kremer. Vous connaissez Rabbi Yosef Karo? Son surnom c'est Shulchan Aruch. Et Rabbi Eliyahu Kremer, c'est quoi son surnom? Le Gaon de Vilna. Et il avait un vrai nom. Donc Rabbi Eliyahu Kremer à Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna raconte que bah de là-haut, on a proposé au Gaon, il l'a rejeté. Il a dit non, je veux pas. Quand Rabbi Chaim de Vologine lui a demandé pourquoi, il a dit ne me dis pas que c'est parce que tu veux arriver à ton étude tout seul et bah, par ta force à toi. Arrête. Il y en a d'autres qui ont eu. Par exemple, Rabbi Yosef Karo, on lui a donné un Maguid, il n'a pas dit non. Et le Gaon de Vilna a répondu ah oui, évidemment. Mais Rabbi Yosef Karo, il était en Israël. Donc là-bas, le Maguid, c'était Tahor Vekadosh. Moi, j'habite en Lituanie. L'Erteda, quel Touma va se mêler à cette Ehara de là-haut. Donc je ne veux pas. Ok? Donc, c'est pour ça que ou Triato, Liot Nitra Venilke Ktsat Israël. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas, qu'on avait pu étudier. Quand il te dit, on parle, il avait déjà parlé dans les psychologues de Code Mode de ce Koach HaMedame qu'on a, Belkochen, ou qu'on a développé, Bechout Salat. Donc il te dit, Koach HaMedame Zé, ou Chach Liot Nitre, Venilke, Ktsat, Aliede Shifat, Roach Hadat, Aelion, Shel Roach HaKodesh, Anisgav, Shebimkor Israël. C'est-à-dire que maintenant qu'on revient sur notre terre, qu'on doit réapprendre à penser, à imaginer, à rêver en juif, en Israël, eh bien, on est bien obligé de faire sortir un petit peu le Koach HaMedame, de les descendre à quelque chose de très, très concret. Nous avons tous grandi à l'occidental, et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai grandi à la animé japonais, à Mehune Manga. Et le problème, c'est que, ok, sans rentrer dans le détail de ça, c'est l'obsédeur, ça c'est l'obsédeur, ça crée chez nous un imaginaire. Mais vadaï. Est-ce qu'on ne serait pas tenté, en tant que parents, de donner ça à nos enfants? Est-ce qu'on ne va pas leur montrer les dessins animés qui sont un imaginaire, qui n'est pas, non seulement le... D'accord?
Être dangereux dans notre sens que l'imaginaire porte.
Ah bah, Ça, c'est une évidence. Tu ne peux pas être que muni de l'imaginaire. Tu as besoin aussi de chokhma, de daat. Ah, c'est évident. La question n'est pas là.
Il y a des gens qui ont une grande...
D'accord, mais ça devient des fous. Mais ça devient des fous.
J'imagine un tas de trucs et ça devient des dingues.
C'est-à-dire, on ne parle pas des fous. On ne parle pas des fous. On parle des gens qui sont, gens toi et moi, des gens normaux, qui savent avoir les pieds sur terre, mais qui ont un imaginaire. Ouais. La question, c'est quel est notre imaginaire? Ok? Est-ce que nos enfants développent en Eretz Israël un imaginaire différent de celui que nous, on a développé quand on était en France? Certainement. Le problème, c'est que des fois, on ne les aide pas. Parce qu'on leur met notre imaginaire de roule, ouais, de notre enfant.
On évite même d'en parler. On évite même de leur donner. Je ne raconte pas rien du tout. Je ne veux pas leur brouiller avec tout ce que j'ai dans la tête. C'est
ce qu'ils
ont avec ce qu'ils ont.
רוח הקודש הנשגב שבמקור ישראל, שהוכח להקדים ולבוא לעולם, מפני שלא יוכל העולם להתקים, להתקיים, להתקיים עד אלף דור בלא אור תורה. אה? כבר?
אלף דור.
אלף דור. דו סביין. תהילים. דבר ציווה לאלף דור. C'est 1000 d'or, génération. Après 26 générations. Ah.
Ça veut dire qu'on n'était pas prêt.
Ça veut dire qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Nous dit Torah ta Kabbalah que justement, comme la Torah a été donnée trop tôt, quelques 974 générations avant l'heure, eh bien.
30 secondes, toi, sans couper votre d'abord raisonnement. On est à combien de générations aujourd'hui?
Ouais.
Je sais pas, compte.
On se rapproche des 1000.
Je sais pas, compte.
5700 divisé par 20.
Ouais, enfin, je sais pas, 30.
Quoi, que la chaîne a fini à l'heure ou quoi?
Qui la donne? Nahon, ils sont pas encore prêts. Non, pas tout le monde. Comment? Qu'en irait que on n'est pas tous encore prêts à cela? Si Dieu avait donné la Torah à Bélef d'or, il aurait même pas eu besoin de la donner. Ah non, mais même à l'époque de Matan Torah. Même à l'époque de Matan Torah, c'est pas le moment. Oui. D'abord, j'ai vraiment l'impression qu'on utilise. On se représente nos ancêtres de manière un petit peu erronée. D'abord, il faut savoir que dans le désert, ils n'ont pas fait la Torah.
Qu'est-ce qu'ils étudiaient alors?
Ils étudiaient la Torah. Mais est-ce qu'ils respectaient la Torah? Dans la paracha qu'on a lue cette semaine, paracha de Ré, on nous a dit clairement qu'on ne faisait pas la Torah dans le désert. Puisque nous dit Moshe Rabbeinu que maintenant, quand on va rentrer en Eretz Israël, on ne fera pas comme on fait maintenant, Isha Yashar Be'ena Ve'aseh. C'est-à-dire que dans le désert, chacun il faisait un peu ce qu'il voulait. Alors, en Eretz Israël, on va devoir faire la Torah pour deux. Et donc, Avodah Zarah, Zechogeg, Gilui Arayot, Zechogeg, Shefichut David, Zechogeg. Egel Azav.
Juste après.
40 jours après. Chet Amiralim. Tu m'as dit dans l'année d'après Matan Torah. Mais tu te donnes la liste de tous les trucs qu'on a fait.
Ah,
Safsouf.
Les maîtres, les miraglim, pour le coup, ils n'ont pas écouté la parole de la Kadosh Baruch Hu, mais a priori, ils faisaient la Torah.
En n'écoutant pas Dieu.
Non, c'est-à-dire qu'ils étudiaient, ils faisaient Shabbat, ils faisaient la Kashrout.
Donc, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas la Torah. Si tu fais la Torah, mais que tu n'écoutes pas Dieu, ça s'appelle, tu ne fais pas la Torah. On ne va pas rentrer dans chaque avéra spécifique. C'est-à-dire.
La cohérence que vous avez racontée, ils allaient au Beit HaMikdash le matin et l'après-midi, ils allaient...
En Moller. D'accord, ça c'était Zman Bayit Rishon. D'accord, non mais, c'est-à-dire...
C'est inconcevable.
Et malasso, depuis que Dieu il a donné la Torah, c'est une réalité que non, on n'est pas tous dans la Torah. C'est comme ça, on ne va pas essayer de se mentir. Maintenant, si la Torah avait été donnée Be'elef d'or, alors on n'aurait même pas eu besoin de la donner. Ça aurait été tellement naturel pour nous de faire la Torah, parce qu'on se serait élevé à cela, et donc voilà. Mais Malaz, Malaz, Dieu a voulu la donner plus tôt, et donc nous dit Ilar Rizal, ça crée ce qu'on appelle Azé Panim Shebador. Des gens qui rejettent, qui sont en conflit, parce qu'ils sentent qu'il y a une dissonance entre le message de la Torah et la réalité du terrain actuel.
Qui l'a donné, bah, il y avait tout le peuple qui assistait.
Non mais,
aujourd'hui, il l'a donné aujourd'hui, il n'y aura même pas 20% de...
Mais pourquoi de tu crois que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas capable de faire un événement sur Internet?
Aujourd'hui, il y a tellement de avec les gens et tout ça, qu'est-ce qu'il va accepter?
Ah, non, mais ça, encore une fois, c'est ne pas vouloir se remettre honnêtement dans l'avant. Tu crois qu'il n'y avait pas des gauchos à l'époque où ils sont sortis d'Égypte? Il y avait Datan de Aviram, de quoi tu parles?
Aujourd'hui, il n'y en a pas.
Non! Si Akadosh Baruch Hu, il a envie de reparler à tout le monde.
Ils étaient tous réunis et tout ça. Aujourd'hui,
il y a WhatsApp! Il y a WhatsApp! Mamaya! Hein?
C'est le décalage horaire. Alors, il va falloir qu'il me cœur.
C'est un problème pour Dieu. Le décalage horaire, nous-mêmes, il n'y a que ça que tu as trouvé.
Il y a quelques prochains qui disent que les ancêtres, ils ont étudié la Torah dans le désert.
Oui.
Ils n'auront peut-être pas fait.
Néron.
Mais ils ont étudié. Ça veut dire que ceux qui sont au Koustaretz, jusqu'à maintenant, ils disent, on a un exemple, qu'on n'a pas besoin d'être en Eretz Israël pour... plutôt, il faut être rac en Eretz Israël pour faire la Torah. Mais l'étudier, on peut l'étudier de partout.
Oui, mais ça n'existe pas aujourd'hui des gens qui étudient la Torah et ne la pratiquent pas. C'est très, 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 très rare. Quelqu'un qui va être à la yeshiva, mais qui ne veut pas, la mettre en pratique. Baruch HaShem, on a quand même atteint cette dimension qu'on comprend qu'on ne peut pas simplement théoriser la Torah.
Les gens qui ne respectent pas Yom HaShoah, parmi les religieux, il y a
quand même... Non, mais ce n'est pas ça que tu dis. Toi, tu dis, en Chutz La'aretz, on étudie, et en Eretz Israël, on fait. Ce n'est pas ça. En Chutz La'aretz, on étudie et on fait. Seulement, en Chutz La'aretz, ils étudient de telle sorte qu'ils ont pensé qu'il ne fallait pas faire Yom HaAtzmaout d'après leur étude. Moi, je pense qu'ils se sont trompés. Mais quand ils ne font pas Yom HaAtzmaout, ceux qui ne font pas, c'est alpi leur étude. C'est qu'ils ont étudié et qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'il ne fallait pas. Comme ceux qui font Yom HaAtzmaout, c'est parce qu'ils ont étudié et qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait faire. Donc c'est une marloquette au niveau de comment on a étudié et qu'on a compris le truc. Mais de dire qu'il y a des gens qui étudient, mais qui se détachent complètement, ils étudient Maseret Shabbat, mais ils ne font pas Shabbat, ça n'existe pas.
Non, ils peuvent prendre comme excuse, comme exemple, le fait que dans le désert, on n'a pas fait la Torah comme il fallait. Nos ancêtres ne l'ont pas fait comme il fallait.
Oui, mais ce n'est pas un exemple, ça. C'est pas un bon exemple. Et à aucun moment, c'est bien. Donc, il y a de mal à Azot. Rabotai, la réalité du terrain, elle est que la Torah a été donnée avant l'heure. Que ça veut dire donc que on ne sent pas toujours que c'est moi. Et donc, ça nous fait faire des fois des choses qui sont contraires à la Torah. Ça va, on sait qui on est. On sait que des fois, on ne s'est pas levé vraiment pour la tefila. On sait que des fois, on n'a pas exactement fait comme il fallait. On le sait. Comment c'est possible? Si la Torah, c'est censé être mon identité la plus profonde, alors comment ça se fait qu'il y a des choses qu'elle me demande de faire que j'ai du mal?
On essaye de s'améliorer.
C'est-à-dire, donc c'est-à-dire que ce n'est pas encore moi. Hein? Vidouk.
On ne sera peut-être jamais au
point. Non, ça va bien. Donc, j'ai ouvert l'acte, c'est-à-dire la vol à Olam, mais peut-être que l'on y aura l'Olam l'itkayem, ad elef d'or, belo or Torah. Vous ne pouvez pas attendre ces mille générations. Shei otsar kol adat. Adat, c'est la capacité de ne faire plus qu'un avec la chose. D'accord?
Avec
la chose. Dat, c'est quand tu ne fais plus qu'un avec ce qui est en face de toi, avec ce que tu étudies, avec ce que tu vis. C'est Zéani. C'est-à-dire, quand tu étudies un texte, tant que tu n'es pas capable de le réenseigner à ta sauce, tu n'es pas arrivé à date. Pas encore. C'est-à-dire, quand tu es avec ta femme, ça s'appelle date. Echad. Mikol makom, yesodo ha-yesodi nishar be-Israël. Ve-akorto va-penimi shelo, u be-emet yesod kol ha-yofi. הוא מתגלה על ידי חיזיון הנבואה שאור הקודש מתלבש בתוכו וביד הנביאים אדמה. Donc où est-ce qu'on retrouve cette réalité de l'unité du dévoilement? Chez les Névi. La névoa, c'est le moment où l'homme et la Torah ne font plus qu'un. C'est-à-dire, c'est un avis. Ou bechol zot, munar gam ban névoa, yesod atzimtzum shel aspaklaria sheina metzurtzachat. Ou mipne ze, krovim umot haolam, liklot ktsat min aharat hanevoa, ou rechokot hen min or haTorah. De quoi on parle? Il y a deux façons de recevoir Or Hashem. Il y a deux façons de recevoir la lumière divine. Soit be'aspaklaria meira, soit be'aspaklaria lo meira, ou ici il dit lo metzurtzachat kolkar. Qu'est-ce que c'est aspaklaria?
La lumière.
Aspaklaria en grec c'est un miroir.
C'est un
miroir. Le miroir, soit il produit la lumière, soit il ne fait que ramener la lumière, réfléchir la lumière qui vient de, d'ailleurs. Donc, aspaklaria meira, c'est que c'est kol haor. Aspaklaria sheino meira, c'est lo kol haor. Ça ne réfléchit qu'une partie. Moshe, ou be aspaklaria meira. Hanevim, be aspaklaria sheina meira. D'accord ? Maintenant, alors comment ça se fait que là on nous dit donc les goyim en krovim liklot et or a nevoa? Ben oui, parce que la nevoa, lorsque Dieu se dévoile dans le monde, c'est pas que pour nous. Le fait que Dieu parle, tout le monde entend. Le fait que Dieu est présent, tout le monde le ressent. Mais est-ce que tu es capable de le traduire en Torah? Ben ça c'est juste si tu as reçu la Torah et que tu étudies la Torah. Et donc, nous dit le Rav Kook, les goyim, ils sont proches peut-être de Or à Nevoa, mais pas de Or à Torah. Et donc, ça part dans tous les sens. Ok ?
Et
ils ne
peuvent pas être proches de la Torah, puisque ce n'est pas leur...
D'accord.
Par contre, à Nevoa, ils ont l'imagination comme tout le monde.
D'accord, c'est ce qu'on vient de dire. Parce qu'on ne les accuse pas, c'est une réalité.
C'est une réalité.
C'est une réalité. Ben, ça va ? Ok. ובכל זאת מונח גם בנבואה יסוד הצמצום אבל ליסוד ביסוסה הגשמי של האומה pour mettre en place la réalité physique concrète du peuple juif אבל ליסוד ביסוסה הגשמי של האומה ההתקשרות הארצית עם ארץ ישראל וההתקרבות האומה אל עצמותה וצמצום כוחה שלא יתפזר, כל זמן שאין העולם ראוי לאגד הכל בשכל עליון, מוכחת היא חוכמת תטעה למלא את המקום. Ici, le Rav Kook utilise plein de concepts de Torah ta Kabbalah. שכל עליון, חוכמת תטעה, de quoi on parle? Pour mettre en base, en bassis, pour bien... que le socle soit solide de la réalisation du peuple juif de manière concrète Be'eretz Israël et pour que notre lien avec Eretz Israël soit fort et qu'on puisse retrouver notre réalité alors on est obligé de l'etzamtzem et akor. On est obligé de se limiter. Ah bon? Pourquoi? Tant que le monde n'est pas prêt à s'unir autour du Sechel Elyon, c'est-à-dire autour de Hashem Echad, alors on n'a pas le choix, on est obligé de faire preuve de Chochmat Ita'a, c'est-à-dire d'une sagesse qui nous touche uniquement à nous. Et de là, on va faire la séparation entre les Gaïm et nous. Mais c'est les Gaïm et nous. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire cette séparation? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être tous ensemble en tant que créature d'Akadosh Baruch? Parce que le monde, il n'est pas prêt à ça. Parce que le monde n'est pas prêt à comprendre qu'on est tous différents et donc tous réunis par un objectif. Puisque le monde n'est pas prêt à ça, on est obligé de se séparer. En malas. C'est pas l'idéal. Mais on n'a pas le choix. Les malettes à ma gueule. Asher amedame hu malbisha הרבה, והיא מבצרת מידת הדין בעולם על ידי ההתקשרות אל הקניינים הזמניים בחיי כל יחיד, וההתעניינות העמוקה של הכלל לחיי הרכוש והמשטר הממשלתי מצד עצמם. Et donc, puisqu'on a été obligé de se limiter, de descendre, eh bien, on se retrouve avec un Koach HaMedame qui est intéressé. Et en fait, je ne me développe que pour mes intérêts. Mes intérêts, soit individuels, ou alors mes intérêts, peuple juif.
Et finalement, il n'y a que les grands penseurs qui arrivent.
Ah bah oui, évidemment. Évidemment. Mais vous savez, il y a toujours une phrase qu'on entend chez les grands dirigeants du monde, où ils te disent, nous devons penser d'abord aux intérêts des États-Unis. Ce qu'ils disent les Américains. Pensez à l'intérêt des États-Unis. Il faut penser à l'intérêt d'Israël. À l'intérêt d'Israël d'empêcher l'Iran d'avoir une bombe atomique. Ce n'est pas l'intérêt d'Israël. C'est l'intérêt du monde entier. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas...
L'Iran menace seulement Israël.
Mais vous ne comprenez pas que... Mais vous comprenez pas que Israël, c'est l'espoir du monde entier.
Ils s'en foutent.
Ah, il a fait. Donc comme ils s'en foutent, pour l'instant, on n'a pas le choix. On est obligé de parler autrement. Les États-Unis veulent rester une superpuissance, et la superpuissance, c'est the superpuissance. Donc il faut garder les intérêts américains. Donc on s'en fiche de polluer le monde entier. À condition qu'on reste les premiers. C'est vrai ? J'ai lu un post ce matin, fantastique. Vous savez que il y a le président de la France, Amechouné Emmanuel Macron. Il a dit, c'est la fin de l'abondance. La fin de l'abondance. Et j'ai vu un post ce matin qui a dit, c'est bien beau de dire c'est la fin de l'abondance. Dans 4 mois, on va faire la Coupe du Monde de football en plein désert avec des stades uniquement climatisés. C'est-à-dire, tu me parles de il faut faire attention la planète, machin, l'écologie, mais le monde entier, pour des raisons d'équilibre, des raisons de droits de l'homme, des raisons de parité, on a donné la Coupe du Monde à un pays qui n'a rien à voir avec le football et qui n'est absolument pas organisé pour ça.
Qui n'a même pas payé les gens qui ont travaillé là-bas.
Tout de suite, tu t'intéresses à ces problèmes d'esclavage, c'est quand même incroyable. C'est la fin de l'abondance. Mais les intérêts.
Il n'y a pas eu de dessous de table.
Non, mais jamais de la vie. Et c'est la question, c'est est-ce qu'il y a les intérêts ou les intérêts de. Donc nous aussi, on n'a pas le choix. C'est-à-dire, si le monde n'est pas prêt à avoir les intérêts du monde, ben nous aussi, on ne peut pas parler que. On est bien obligé de mettre en avant nos intérêts. Le shekel. Le shekel est très fort. Est-ce que c'est notre intérêt ? Oui. Est-ce que c'est bien pour le monde ? Je sais pas.
Et les Français, ils pleurent.
C'est pas pour nous.
Les Français, ils pleurent.
Je sais pas quoi te dire. Pour l'export d'Israël, le shekel trop fort,
c'est pas bien.
C'est pas bon du tout.
Et voilà. Et le shekel trop faible, c'est pas bien non plus. Et le shekel au milieu, c'est moins que moi. Non ? Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est malheureux pour les gens qui vivent de leur retraite et qui ont vu 20% de leur retraite partir en fumée.
Exactement.
C'est malheureux, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire ?
Ton serviteur.
Mais beaucoup de gens. Mais bon, qui tu veux qu'on fasse ?
Justement, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Quand tu dis ça, tu as dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Les gens.
Non, mais tu comprends ?
Non, mais c'est la
2 secondes, temps mort. Je vais dire quelque chose qui est absolument pas populaire. Je peux dire un truc qui n'est pas populaire ?
Qui a bougé l'Ukraine et compagnie. C'est des choses qu'on voit à notre époque. Jamais on aurait imaginé ça il y a 20 ans.
Ouais, mais il y a 100 ans, on pouvait imaginer ça très bien. Il y avait des empires qui bouffaient d'autres pays et personne ne disait rien.
Depuis
la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a plus ça. Et bien, Poutine, il a rappelé à tout le monde qu'il était encore le tsar de Russie. Mais je vais dire un truc qui n'est pas du tout populaire. Ce problème-là du shekel qui monte et que donc les retraites ne. C'est un problème qui touche que les Français. Ils n'ont pas le même système de retraite que les Français.
Les Anglais,
c'est pareil ? Parce que les Américains, ce n'est pas le même système du tout. Les Américains, pas, ils se sont mis de l'argent à eux de côté.
Non, même les
économies,
soit
c'est lui qui sont conservés en dollars. Ouais. Non, mais ça, que ce soit en dollars, c'est une chose. Mais c'est tes économies. Tu les as, truc. Là, la retraite, c'est que bah, tu as cotisé, c'est la France qui te donne, machin. C'est-à-dire, si tu vis encore de la France, alors c'est normal que les fluctuations qui touchent la France, eh ben, elles te touchent aussi. C'est, je veux dire, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
Mais tu ne peux pas refaire ta vie. Si tu as vécu là-bas.
Non, mais je ne dis pas le contraire. Je dis que les gens étaient très très contents quand le shekel il était à 5. Hein, on se rappelle de cette époque incroyable où le français arrivait en Israël et pouvait acheter l'État en entier. Et aujourd'hui, il ne peut plus. Nous, vous savez, c'est nachon, c'est caché. C'est bien mettre caché.
Il y a une période, ça va, mais maintenant, les gens, le loyer, les prix qui montent, les trucs, ils ne peuvent plus.
Les cacher.
Et ils ont perdu 20 ou presque 30% de leur retraite, et tout le monde.
C'est caché, mais Ode, d'un autre côté, moi je vous avoue que, après m'être baladé tout l'été avec des groupes un peu partout en Israël, c'est fantastique, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, tout le monde dit que c'est trop cher, qu'on peut plus et tout ça. Et tous les hôtels sont pleins, mais pleins d'Israéliens. Avec des prix exorbitants, mais les Israéliens sont là.
Ah bon,
hein? Non, mais c'est pas. Non. Je t'arrête tout de suite. C'est pas les Israéliens de Savion. C'est pas les Israéliens du nord de Tel Aviv. Je peux t'assurer que j'étais dans les hôtels, c'était Amcha Shala Amcha. Et pourtant, ils sont tous là.
Même cela, c'est ce que je veux dire. Même ceux qui savent, ils vont se laisser.
Mais t'as pas.
Mais sinon, ils
ont de l'argent.
Tu n'as pas tenu compte de la mentalité israélienne.
Non, peut-être, tu as raison. Tu as raison.
C'est. On consomme. C'est le rachou. Ça monte à la banque. C'est au rouge.
Ouais, tu as raison.
C'est la mentalité comme ça. Les Français, c'est l'inverse.
C'est un crédit, hein.
Certainement. Je ne sais pas comment ils font. En tout cas, vous avez compris qu'on est face à une réalité, on est bien obligé, nous aussi, de garder nos intérêts. Eh oui, et mal à la sorte. Donc, il est. Kshelo igia adain azman, shel kol atoa leofia el amiromim amegamatim. נשלחו מאת יהושע, שניים אנשים מרגלים חרש לרגל את הארץ ובאו לבית אישה זונה ושמה רחה. מה הקשר? Là vient nous dire le Rav Kook. Alors donc, comme on n'était pas encore arrivé au top, il a fallu que Yehoshua il envoie deux מרגלים בבית אישה זונה ושמה רחה. Mais quel rapport? Quel rapport avec ce qu'on vient de dire depuis une heure? On parle d'une réalité où on n'est pas encore en osmose avec l'idéal divin. Et comme on n'est pas encore en osmose avec l'idéal divin, on est obligé de se raccourcir, de se letzamtzem. Et à cause de ce tzimtzou, Yehoshua est obligé d'envoyer deux meraglim. Alors, la question, elle est simple. Tu dis, Rebelote, pourquoi Yehoshua il envoie des meraglim? Ça s'est pas bien passé la dernière fois.
Tikkun.
Est-ce que c'est lui qui a fait le tikkun ou Moshe il a déjà fait le tikkun?
C'est lui qui l'a envoyé pour.
Ben ça n'a pas marché ça.
Oui.
Donc tu dis, Yehoshua il fait le tikkun de Moshe.
Oui.
Moi je pose la question, est-ce que Moshe il n'a pas lui-même fait le tikkun déjà?
Il n'est pas rentré en Israël.
C'est pas la question. Là on ne parle pas encore de Yehoshua, il n'est pas encore rentré en Israël. Est-ce qu'il y a un tikkun déjà fait par Moshe au niveau des Meraglim? Alors, il y a des choses qui sont tellement connues des gens que ça éclipse d'autres versets qui sont tout autant marqués dans la Torah. Mais comme on n'a pas mis les projecteurs dessus, alors, je vous rappelle que Moshe, après l'épisode des Meraglim, a déjà renvoyé des Meraglim ailleurs. Vous vous rappelez? Vaishlach Moshe Meraglim le Ragel et Yahazer. Quand il a conquis la ville de Yahazer, qui est vers Yarden, il a renvoyé des Meraglim. Et ça s'est très bien passé. Yehoshua va renvoyer des Meraglim. Et ça va très bien se passer. Mais deux secondes. Alors à quoi ils servent ces miraglim de Yoshua? Yoshua, il a déjà été à Yericho. Quand il est parti avec les premiers miraglim, ils ont déjà fait le tour de la terre. Ils savent par où il faut passer. Donc à quoi ça sert maintenant d'envoyer les deux miraglim? À quoi ça sert? Stratégie. Allez, on fait un peu de militaire là. À quoi ça sert? On a déjà été là-bas.
Alors, au niveau militaire, c'est de savoir un peu la puissance de l'ennemi, s'il y a des mercholim derrière.
Et donc ça va marcher si on va juste Bebet Isha Zona?
Ouais.
Mais ils n'ont rien vu.
Pourquoi on envoie des
Mais ils n'ont rien vu. Les premiers Meraglim, ils ont été faire le tour pendant 40 jours. Eux, ils ont juste été dans une maison. Une maison, dans la muraille.
Ils n'ont pas besoin d'aller plus loin, puisque la femme elle-même, elle y a dit exactement ce qu'ils ont.
Ah, toi tu dis, il y a des commentateurs qui ont dit ça. Ils disent, ouais, mais chez elle, il y avait tous les généraux, tous les rois qui venaient. Donc là-bas, c'était le meilleur endroit pour écouter un petit peu ce qui se passe. C'est Nachon. Mais ne dis leur fou, c'est pas ça qu'ils sont venus chercher. Ils sont venus, Bebet, Isha, Zona, Ushma. Comment elle s'appelle? On vient de lire. Comment? Rachav. Rachav. Ça veut dire quoi? La grandeur. La grandeur. Ah, tu vois ce sourire qui te trahit? Mais non, c'est la grandeur. Arrête, qu'est-ce qui nous a manqué? Bechutzala, arrête. Arachav. Nous dit la Torah dans Parashat Bechukotai que l'une des malédictions du peuple juif, c'est que Bagalout, qui pachad verachav levaver. Tu es petit, tu as peur de ce qui est grand.
C'est normal.
Alors je dis pas que c'est pas normal, mais il faut corriger ça. Et donc nous dit le Rav Kook, si tu veux pouvoir t'élever à la sortie de l'exil, tu as besoin de retrouver le rochav, l'espace, la grandeur. Et donc Yoshua, il envoie ses deux explorateurs, Bebet Isha Zona ou Shma Rachav. C'est ça qu'on vient chercher. Et au final, c'est Yoshua qui va se marier avec Rachav. C'est ça? Okay.
Dans notre époque, on a vu des grands comme Blum en 36.
Avec Rachav.
Alors, c'est marqué.
Mais regarde pas comme ça.
Qui a lu ça?
Bah, dans Rachi, dans tous les commentateurs.
Ah bon? Yoshua se marie avec Rachav.
Oui, ça vous dérange tellement? C'est un scoop? Pourquoi c'est un scoop? Il y a une femme qui est plus propice pour lui?
Elle, c'est bien Gvoul. Il y a un passage entre la sortie donc, du désert et l'entrée en Eretz Israël. Cette muraille, c'est vraiment l'édifice qui sépare les deux.
Oui.
Et donc, elle est située sur ça. Je veux dire qu'il y a un passage obligé.
Oui.
Au fond, c'est un intermédiaire important.
Non seulement c'est un intermédiaire important, c'est un intermédiaire essentiel pour retrouver la grandeur.
Ouais.
D'accord. C'est-à-dire והכל נקשר בקודש ובטוב העליון, אבל מידת הדין מתעוררת ויראת העונש האמיתית נצרכת לפי ערך השלטת כוח המדמה והתעמקותו. C'est bien beau de vouloir grandir, 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 mais après, tu fais n'importe quoi. Il faut donc qu'il y ait d'un autre côté, מידת הדין, avec יראת העונש, parce que si tu pars, tu vas faire n'importe quoi. Donc il faut qu'il y ait d'un côté quelque chose qui te garde bien, bien, bien les pieds sur terre pour que tu puisses continuer à rêver. Aval, be'atzmiut ha'chefetz ha'ummati lo nishlam az adayin ha'partzuf ha'dimyoni le'achizat ha'deat be'itgalmuto mitzad echad, ve'ayofi bechol tiurav mitzad sheni ve'ze ushlam bime shlomo. Az תבונה שתיים נשים זונות לפני משפט מלך ישראל היושב על כיסא השם. Là on avait une zona qui s'appelait Rachav. Il me dit ça a commencé mais ça n'a pas terminé parce qu'il manquait mishpat. Et quand est-ce qu'on est arrivé à l'osmose de la grandeur qui est aussi bien ancrée ba'olam hazé, c'était à l'époque de Shlomo. On a vu cette fois Shte Zonot ve Mishpat Shlomo. Han, vous connaissez l'histoire? Han, deux femmes? C'est mon enfant?
Ouais.
Han? Shehu Yoshev al Kiseh Hashem. C'est-à-dire que Shlomo, il est gam prophète, et gam chauffette. D'accord ? Omnam, al-yede ha-itarevut shel an-nashim anokhiyot, am khulshat ha-koh, im khulshat ha-koh, slicha, le-akel devarim zarim, yatsa rish'a shegarma le-yesod kerach gadol shel romi. C'est quoi cette histoire ? C'est que au moment où Shlomo il a été avec Bat Paro, alors Na'atz Kane Bayam ve Notzar Krach shel Romi. Rome est né à ce moment-là. Regarde, ça marche plus ou moins en termes d'historique, que c'est plus ou moins à l'époque de Shlomo qu'on a vu la première cité de Rome se mettre en place. C'était pas encore du tout la République romaine, c'était pas encore l'Empire, rien du tout. Mais ça a commencé à ce moment-là à commencer. Mazdomeret. C'est-à-dire, si tu commences à faire une faille dans le lien entre en haut et en bas, Rome apparaît. Et voilà, ça. Vesinune ayesodot utzrechu leharich eden aden veadanim. Ad shenitragesh koach amedame mishlita rechava bigvul Israël. ויצרה דעבודה זרה נעצר בדודה דעברה ונכנס יצרה. Parce qu'au final, on a décidé que comme on n'était pas capable de faire le lien entre en haut et en bas, on enlève le Yitzra d'Avoda Zara. Chachamim ont chrité le Yitzra d'Avoda Zara. Et sauf que quand ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont vu, les Chachamim? Connaissez la Gemara qui nous dit que les Chachamim sont réunis et ils ont fait la shrita au Yetzer de Avoda Zara. Et comment il avait l'air de quoi, ce Yetzer? Qu'est-ce qu'ils ont vu, les Chachamim? Parce que pour shriter le Yitzra d'Avodah Zara, il faut bien qu'il y ait quelque chose à shriter.
À partir du moment où ils amenaient leurs enfants...
Non, mais ça ressemblait à quoi? Quand ils l'ont shrité, la cérémonie de shrita d'Avodah Zara. Comment ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, concrètement?
Ils ont travaillé sur le peuple.
Non, ma pitom. Ça se passe à l'intérieur du Beth Amikdash Pnima. Ils nous disent aux sages, Raou, Arié, Shel Esh, Yotze mi bet kodesh hakodeshim. C'est ça Yitzra de Avodah Zara. Eze medame, eze koach medame. Ils ont vu un lion de feu sortir du Saint des Saints. C'est ça l'Avodah Zara. C'est gadol alors. Nachon, c'est gadol, mais on n'était pas capable de le gérer. Donc, on préfère l'enlever. C'est vrai? Ou le matze, en od navi itanu le avad le להגת אהבת האמונה והארץ איננה מורגשת באותו הטעם העמוק של ימי הטובה. Aujourd'hui, t'es en Israël, tu ne ressens plus le lien profond de vie qui t'unit à Dieu quand tu es ici. On ressent un peu, mais pas comme avant. Il y a plus. והדברים מקושרים עם צער העולם כולו. C'est le monde entier qui est en peine. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus en lien avec Dieu. C'est terrible. עד שבאחרית הימים עקבות כוח המדמה מתגלים ואהבת הארץ מתעוררת. הנה, petit à petit on revient vers cette אהבת הארץ qui nous relie. C'est-à-dire, hier j'étais avec un groupe, avec mon groupe à Hebron, et quelqu'un qui est de tendance de gauche m'a dit, ah, peut-être que ça suffit, il faudrait peut-être finir ce qu'on avait commencé avec les accords d'Oslo, faire deux états, et puis on n'en parle plus. Après, il faut être prêt à renoncer à une partie. J'ai dit, Shniachat, donc toi, tu me dis que... Là, ce garçon, il est fiancé. J'ai dit, tu vas te marier, Bezrat Hashem et tout, mais disons que moi, j'ai des vues sur ta femme et que j'arrête pas de te faire des problèmes. Donc, pour régler les problèmes, tu penses qu'il faudrait que le lundi et le mercredi, elle soit avec moi. Ah, je te la laisse 5 jours sur 7. Mais deux jours, ça prend moi. C'est pareil. Le lien qui unit un homme et sa femme, c'est le lien qui unit Adam et Adama. Et ça, on le commence à le ressentir aujourd'hui. מתראה הדבר בשמריו Aval omed hu le izdaker. C'est pas fini de se s'évoluer. Akatan yel elef va'tsair le goy atzum ani Hashem beita achi shena. Chazak baruch.
Attends, je me fais Kedish.
Ah oui, je suis à Gaïa.